Sud Radio 10h midi, débat.
Les débats avec vous, avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Lucas Jakubowicz, journaliste politique. Bonjour Jean-Luc, journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine et votre livre Un animal pour les gouverner tous est paru aux éditions Arquet. Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité. Bonjour. Bonjour. Et Matteo Ghisalberti, bonjour, journaliste franco-italien à Field Media, nouveau média. Évidemment, l'actualité, c'est Anne Hidalgo hier aux 20h de TF1 qui propose une primaire de la gauche aussitôt refusée. Qu'en avez-vous pensé ? Laïcité en danger au collège, au lycée, c'est une enquête IFOP sur laquelle on va revenir. Et puis également une enquête dans Challenge sur la démocratie. On n'a pas eu le temps d'en parler hier. On va voir ce que donnent tous ces sujets. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Mathéo, on va commencer avec vous. Je l'ai déjà fait hier, mais on peut le refaire.
Non, bon, écoutez, effectivement, j'ai beaucoup à cœur le destin de Notre-Dame de Paris parce que c'est un patrimoine ça fait partie du patrimoine de l'humanité, mais aussi, en tant que chrétien, naturellement, j'y tiens beaucoup. Et j'ai publié il y a 2 semaines, désormais, une enquête sur Field Media qui parlait justement des signaux qu'on avait trouvés sur le projet de restauration des espaces intérieurs de Notre-Dame. Et on avait découvert que on risquait d'avoir Disney qui rentrait à Notre-Dame,
ouais, pas pour faire le. Ouais. C'est un papier en fait d'un journal anglais qui disait Notre-Dame,
Disneyland
à Notre-Dame.
Qui était fait aussi avec nous. Ouais. Donc en réalité, on l'a fait ensemble. On avait découvert cette histoire que les chapelles, en particulier de Notre-Dame, risquaient d'être un peu bouleversées parce que selon les gestionnaires entre guillemets des lieux, donc l'archidiocèse de Paris, il y avait un mauvais usage de ces chapelles qui sont encrassées, etc. Mais il faut justement se rappeler que on peut les restaurer, bien sûr, mais l'usage, c'est comment dire, quelque chose qui est une responsabilité de ceux qui occupent les lieux. Donc il faudrait peut-être les utiliser mieux. Et ils avaient aussi envie au diocèse de mettre, par exemple, des scripts lumineuses, des phrases.
En fait, non, ils veulent changer les bancs, les chaises, les anciennes chaises, par des bancs avec des petites lumières et des bancs à roulettes.
Et apparemment, on souhaiterait même faire un monte-charge qui perce la crypte, un morceau de la crypte, disons. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous pourrez les retrouver sur Field Media. Et pour faire descendre ces bancs pendant la semaine, quand il y aura moins besoin d'avoir des gens assises comme ça. Et tout cela, la chose qui m'avait vraiment préoccupé, c'est que tout ce projet avait été fait un peu comme ça, en catimini, alors que voilà, il s'agit de quelque chose de très important, d'un monument très important et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. L'expérimentation, pourquoi pas dans les églises, mais il y a plein d'églises modernes qui sont un peu moches, qui mériteraient d'être valorisées et pourquoi pas s'en prendre à elles.
Et aujourd'hui,
il y aura la commission du patrimoine qui décidera effectivement sur ce projet de réaménagement des espaces intérieurs.
Même Stéphane Bern est contre.
Valérie Expert.
Absolument,
qui
j'ai signé cette
tribune
parce que ça rejoint une discussion qu'on avait eue avec Yves Michaud, qui est un grand spécialiste de l'art, où on doit être immersif, donc avoir des projections sur les murs et tout ça, voilà, laissons à Notre-Dame ce qu'est Notre-Dame. Alors peut-être qu'on est des vieux cons, mais en tout cas, je pense qu'il y a Notre-Dame est quand même un bâtiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, Yves Damécourt, un bâtiment millénaire qu'il faut respecter ce qui a été fait.
D'une manière générale, les édifices religieux sont la propriété soit de l'État, soit des communes. Donc dans le cas des cathédrales, c'est l'État. Et le clergé en est l'occupant. Donc en fait, les aménagements reviennent à l'État. Je comprends même pas d'ailleurs.
Là, c'est le clergé qui a donné c'est l'évêché qui a donné son accord pour ces.
Qui d'ailleurs, entre-temps, a perdu l'évêque.
Oui.
Mais qui a fait ces projets d'aménagement ? C'est bizarre que ce soit pas l'État, puisque c'est l'État aujourd'hui qui est propriétaire de Notre-Dame. Je comprends pas bien le.
Bon, allez-y. Vous étiez un coup de gueule de saison.
Coup de cœur pour les. Je dédie ce coup de cœur à la famille Cadillon de Lamotte, à la famille famille Fazenbat de Loubins, à côté de l'Aréole, aux producteurs regroupés dans la coopérative Palmagri à Auros, dans le sud Gironde. C'est tous des producteurs de foie gras, c'est des gens qui gavent les oies et les canards depuis des générations, qui se sont transmis ce savoir-faire de génération en génération. Ouais. Le gavage des oies, c'est une tradition de l'Égypte ancienne qui est arrivée en Europe par les voyages des populations juives qui l'ont amené en Alsace, et puis ensuite d'Alsace c'est passé, on ne sait pas trop comment, vers le sud-ouest, le Périgord, les Landes. Et donc c'est pas une maladie le foie gras, c'est une propriété du foie. Les oiseaux migrateurs mangent des grains avant de voyager, et donc leur foie, le foie est aux oiseaux migrateurs ce que la bosse est aux dromadaires. Et donc voilà. Et donc il y a beaucoup de désinformations là-dessus. Moi, depuis que je suis gamin, je vais donc à La Motte, à côté de Saint-Sevé, chez Georges Cadillon, Madeleine, Yves, pour goûter leur foie gras, leur confit.
Et donc c'est un peu en réaction à ces mairies qui décident de supprimer le foie gras de leur table.
Ils
voudraient l'imposer aussi aux restaurateurs.
Et puis à travers ça, c'est la gastronomie française qui est au patrimoine universel de l'humanité que l'on attaque. Et puis derrière, on va commencer par le foie gras, puis après on va s'attaquer au bœuf gras, et puis on va s'attaquer au vin.
Alors,
et puis on va s'attaquer
pense,
à tout ça.
Alors on va. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Luc Benamias?
Eh ben j'avoue. Je suis écolo depuis 50 ans et je mange du foie gras.
Ouais. Et alors le foie gras, c'est de droite ou de gauche, Lucas Jakubowicz, puisque dans votre livre, vous parlez des animaux plutôt de droite et plutôt de gauche.
Je ne sais pas, je pense que c'est et de droite et de gauche. Ouais. Et à cet égard, je pense que les écolos qui font un peu le procès aux mangeurs de foie gras se fourvoient totalement. Ouais. Ça souligne une méconnaissance totale du pays. Et quand j'entends par exemple Yannick Jadot qui critique à mots plus ou moins couverts les mangeurs de foie gras, quelque part, c'est comme si... il renonce à des centaines de milliers d'électeurs, notamment dans le sud-ouest, qui est une terre plutôt de gauche. Donc électoralement, c'est stupide.
Et en Alsace aussi. Hein.
Et en Alsace, oui.
Après, l'Alsace n'a jamais été de gauche, à part l'agglomération strasbourgeoise.
T'as pas tort.
Allez, on marque une pause, on continue. On se retrouve dans un instant. On va parler du naufrage d'Anne Hidalgo. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que celui-ci. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio, avec aujourd'hui Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine, et votre livre Un animal pour les gouverner tous est paru aux éditions Arquet. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, et Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien à Fil de Média. Alors Jean-Luc, je vais vous donner la parole dans un instant. Je voulais faire une petite précision hier. Il y a eu énormément de réactions après une petite remarque de Philippe Glohagen, le patron du guide du Routard, qui disait, vous avez vu aux États-Unis, ceux qui ont voté Trump meurent plus que ceux qui ont voté Biden. Donc évidemment, ça a suscité beaucoup, beaucoup de réactions. En fait, il a un peu schématisé et raccourci l'information. C'est une publication qui a été faite aux États-Unis, une étude qui est tout à fait sérieuse. C'est la radio publique américaine qui a regardé les États dans lesquels le Covid était le plus virulent et dans lesquels les gens mouraient le plus. Et il se trouve que ce sont des États dans lesquels, des États républicains dans lesquels Donald Trump était très largement donné gagnant. Donc il se trouve aussi que ces États-là sont souvent les moins vaccinés. C'est le cas d'un État où ils sont à 25% vaccinés. Donc la cohérence, elle est celle-là. Donc c'est pas le vote, ils n'ont pas pu demander aux gens pour qui avaient voté leur malade ou leur mort, évidemment. Les habitants des comtés pro-Trump ont près de trois fois plus de risques de mourir du Covid. C'est une étude américaine. Voilà, cette précision est en fait. Je donne la parole à notre ami Jean-Luc Benamias, qui avait un coup de gueule.
Oui, c'est pas très novateur, hein, mais... Je m'excuse, mais on recommence encore une fois avec nos enfants. Alors là, ça a été dit dans le journal de Sud Radio tout à l'heure. L'obligation du masque dans la cour de récréation, mais pas uniquement. L'obligation du masque pour les enfants quand ils vont faire du sport à l'extérieur. Ouais. Bon, ça n'a strictement aucun intérêt. Moi, je pense vraiment, faire du sport avec un masque, Ça m'est arrivé la semaine dernière de faire encore participer à une compétition. Alors, quand je dis compétition, moi, je fais 10 km, 5 km, je fais du 10 km heure.
C'est déjà pas mal.
Mais je ne vais pas une compétition avec un masque sur la figure. Je veux dire, ouais. Ce n'est pas possible. Alors, pour les enfants, c'est encore plus grotesque. Voilà, je le dis, c'est un... faut arrêter avec ça, quoi. Que dans les salles de classe, OK, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, très dur pour les enfants. Alors, qu'on les laisse tranquilles dans les cours de récréation et surtout qu'on les laisse tranquilles quand on joue au foot, au rugby, au volley, à tout ce qu'on veut, à l'extérieur.
Oui, donc le masque, oui, Mathéo, bah,
surtout parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas encore assez un geste qui est celui de l'ouverture de fenêtres, même s'il fait froid, d'accord, mais au-delà des écoles, on ne le fait pas encore systématiquement et ça pourrait baisser la concentration du virus. Et donc, cela pourrait aider à avoir des comportements plus simples parce qu'effectivement, rester à l'extérieur et en faisant du sport avec un masque, enfin, déjà, il faut avoir des poumons bien entraînés, grands comme le foie du canard.
Attention, on ne mettait pas le sujet dans l'assiette. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien en extérieur, Lucas.
Bah, bon, oui, je ne comprends pas non plus.
Ouais. On a du mal à comprendre cette... Bon, voilà, c'est ce qui vous a agacé, Jean-Luc Benhamias. Lucas Jakubowicz, c'est un coup de gueule qui va nous amener sur notre premier sujet.
Peut-être, hein, puisque c'est un coup de gueule sur la faiblesse de la gauche. Alors, beaucoup a été dit sur la gauche qui n'a jamais été aussi faible. Pour certains, c'est parce que... elle a refusé de parler de sécurité, d'identité, d'immigration. D'autres, c'est parce qu'elle a été trop libérale sur le plan économique. D'autres jugent la gauche faible parce que, justement, elle est trop archaïque sur les questions économiques. Alors moi, mon coup de gueule, c'est, en fait, sur, à mon avis, un aspect assez méconnu dont on parle peu, qui explique la faiblesse structurelle de la gauche. Et c'est très simple et c'est un peu bête. Excusez d'être un peu cru.
Un petit peu, oui.
Voilà, là, on m'entend mieux, peut-être. Pour être un peu con, on va dire que la gauche est peut-être devenue chiante, et pour être plus, pour faire un euphémisme, on va dire qu'elle a perdu le goût de rire.
Et, c'est juste.
Mais en fait, ce qu'il faut voir à l'esprit, c'est que la gauche a construit en fait sa force dans les années 70 et 80 sur le grâce au rire. En fait, elle se moquait assez souvent des figures qu'elle rejetait, les conservateurs, les religieux, les moralisateurs. Et quand on regarde, et ça c'est surtout pour les auditeurs les plus âgés, regardez, dans les années 80, on avait des journaux comme l'Écho des Savanes, Charlie Hebdo, qu'est-ce qu'il y avait, Harakiri, où à chaque fois il y avait des caricatures qui étaient parfois trash, mais super drôles.
Ça existe toujours, hein.
Charlie Hebdo,
Charlie,
oui.
Charlie existe toujours, Harakiri,
non.
L'Écho des Savanes, non plus.
Et alors, quand on regarde, les quelques caricaturistes qui subsistent aujourd'hui sont attaqués bien souvent par la gauche. Ouais. Par exemple, Coco Bert, qui est hyper bien, mais qui a Libération, est attaqué surtout par la gauche. Xavier Gorce s'en est pris plein la tête, parce qu'il a fait une caricature, soi-disant, sur la pédophilie dans le monde. Moralité, il a été exfiltré, bon, maintenant, il est au point. Mais donc voilà, la gauche a vraiment perdu le sens de l'humour. C'est-à-dire que quand on est de gauche, on ne peut plus rire de rien parce que c'est raciste, parce que c'est une microagression, parce que c'est sexiste, etc., etc. Et aujourd'hui, en fait, c'est la gauche qui est conservatrice, qui va dire on n'a pas le droit de se moquer des religions et autres. Mmh. Et à mon avis, c'est ça qui contribue à expliquer sa faiblesse, parce que les Français, en réalité, on est un peuple de libres penseurs, on est un peuple marrant, et on n'a pas envie d'avoir des gens qui viennent dans notre chambre à coucher nous dire « il faut faire ci, il faut faire ça ». Et ce qui est très rigolo, c'est qu'aujourd'hui, l'humour subversif est en train d'être accaparé par la droite. Il suffit de regarder, par exemple, sur les réseaux sociaux, les comptes de trolls, les caricatures, où on se moque des incohérences du néo-féminisme, de l'écriture inclusive, du pronom Yel, etc. Et voilà, c'est comme s'il y a une sorte de renversement du front du rire, et qu'aujourd'hui, c'est la droite qui est devenue, entre guillemets, propriétaire du rire, et c'est la gauche qui, maintenant, est conservatrice, moralisatrice, bigote et chiante.
Alors, il reste Charlie Hebdo, qui reste à gauche, mais c'est vrai que...
Oui, mais qui sont accusés par la gauche d'être
absolument
de droite.
Absolument, oui, oui. Jean-Luc Benhamias,
Tu as oublié... un hebdomadaire qui s'appelait La Gueule Ouverte, dont j'ai été le dernier rédacteur en chef, qui était un journal écolo, historique, dans les années 70, qui était d'ailleurs issu de Charlie Hebdo, qui faisait justement... Alors c'était assez... c'était parfois assez gras et assez gros, mais il y avait de l'humour, et pourtant, quand on s'appelle La Gueule Ouverte, vous voyez bien ce qu'il y a derrière, et il y avait de l'humour dedans.
Oui, j'avais lu, mais tu vois, Jean-Luc, si tu compares, par exemple, avec Reporter aujourd'hui... Reporter, ça se tire une balle. Ouais. On le lit, on se fait hospitaliser pour névrose.
Oui, enfin, ceci dit, tu n'as pas tort, mais c'était extrêmement bien fait, Reporter.
Ouais.
Mais il n'y a plus le rire pour essayer d'avoir l'adhésion des gens, en fait. C'est plus du moralisme ou de la moraline que du rire. Alors que la gueule ouverte, il y avait du rire.
À force, à force de rester un peu soi dans la gauche, on rigole seulement de certaines choses qui sont autorisées. Et bah, ça suffit de regarder les émissions de plus grande audience qui font rire seulement, seulement certains qui sont comment dire, d'ailleurs ne se privent pas de rire des parfois défauts physiques de certaines personnes parce qu'ils sont des opposants politiques, alors que si c'était la droite qui le faisait, ça serait la fin du monde. Et puis quand on parle des religions, non, il ne faut pas caricaturer seulement une religion.
On peut crier Jésus est pédé à la télé, on a le droit, mais il y a une religion dont on ne peut pas se moquer,
l'islam,
et
voilà.
c'est assez préoccupant. Et un autre truc qui est assez rigolo, c'est quand on regarde par exemple un endroit qui est très très à gauche, c'est les cérémonies des Césars. Et quand on les regarde depuis deux ans, c'est toujours des gens qui viennent crier. Alors ils sont privilégiés, mais ils viennent dire qu'ils sont victimes de racisme systémique, ils viennent compter le nombre de noirs, de blancs, de femmes dans les films, etc. Alors que dans les années 80, quand on regardait ces émissions, on rigolait. Et du reste, elles sont de moins en moins regardées à la télé. Et les vieux de la vieille, type les Inconnus, ou Les Nuls, à chaque fois qu'ils viennent à ces émissions, ils disent, mais en fait, on rigole plus.
Il y aura Antoine Decaune qui va présenter, je crois, les Césars cette année. Donc ça, que ce sera un peu plus drôle. Mais,
peut-être, espérons.
Pourtant, c'était Blanche Gardin qui avait écrit les textes de Marina Foïs. Et c'était pas très drôle, effectivement.
Oui, parce qu'elle a dû être
brisée. Mais c'est une théorie qui est intéressante. Hein.
Mais je pense que l'humour manque à droite et à gauche. Moi, j'ai été élevé avec Coluche et Pierre Desproges, donc humour de droite, humour de gauche, avec le Coco Show, le Colari Coco Show, le Bébête Show et les Guignols de l'Info, avec même les caricatures de Jacques Faisan dans le Figaro, qui était une forme d'humour aussi. Et en fait, aujourd'hui, l'humour manque, parce que c'est... Mmh. clairement qui manque au discours politique.
Je ne sais pas, le Père Noël est une ordure ou le dîner de cons. Si on appliquait la grille de valeurs de la gauche actuelle, on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas le tourner.
Et du reste, les grands succès de cinéma populaire, c'est entre guillemets, c'est plutôt de l'humour de droite. Les Visiteurs, c'est de l'humour de droite. Le Père Noël est une ordure, c'est de l'humour. Les Tuches, c'est un peu l'humour de droite. Même Problemos, qui se moque des zadistes, c'est plutôt de l'humour de droite. Et alors, j'aimerais bien voir un jour des néo-féministes ou des socialistes moralisateurs qui font un film d'humour. Ouais. Et j'imagine leur réunion de film. Alors, non, cette blague, on ne peut pas la faire parce que ça va froisser quelqu'un. Non, mais celle-là, on ne peut pas la faire parce que c'est de l'appropriation culturelle. Et vraiment, j'ai envie de dire à la gauche, mais entre guillemets, c'est un peu...
Ouais.
Péter un coup, rigoler, et vous verrez, ça ira mieux dans les urnes. Vraiment,
on a un vrai problème avec la liberté.
Oui, c'est la liberté.
Un vrai problème avec la liberté d'expression.
Et ça rejoint. Enfin, oui, vous avez raison. C'est-à-dire que la gauche, c'était censé être la liberté d'expression, et on voit que.
En fait, on se retrouve muselé.
Et en fait, la quintessence de l'humour, c'est de faire rire en dérangeant, en interpellant. Ouais. Et comme la gauche a peur de déranger et d'être accusée de choses parfois imaginaires, elle a tendance à se taire et à surjouer la moraline. Et à mon avis. Elle le paye cash dans les urnes.
Sérieusement, vous trouvez que la droite et l'extrême droite, en ce moment, ils sont très drôles ?
Regardez sur les réseaux sociaux, il y a plein de comptes parodiques qui se moquent des écoféministes. Alors derrière, c'est plutôt des gens qui sont de la droite, mais ils sont tordants. Et c'est eux qui ont pris vraiment le monopole de l'humour, de la caricature, de la satire. Et c'est vrai que rien que sur les réseaux sociaux, etc., il n'y a pas de compte parodique de gauche, par exemple. Et c'est rigolo d'observer ça.
On va
ils ont quotidien, quand même.
De gauche ?
Je pense, quand même.
Mais est-ce qu'ils font de la parodie ? Oui.
Si ça leur convient.
C'est de la parodie. On se retrouve dans un petit instant et on va parler d'Anne Hidalgo qui pleure et qui ne rit pas. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio. Je voulais juste vous lire la réaction d'un auditeur qui me fait beaucoup rire. C'est de l'humour. Hein. Il nous dit plus de foie gras dans les villes écologistes, mais il y aura toujours des toasts au caviar beluga et du crabe des neiges. Bon, voilà. C'était en réaction à notre débat sur le foie gras. Parce que le caviar, c'est finalement écologique. Non ?
Est-ce que les poissons ont une conscience ? C'est ça la question, en fait. On ne peut manger que les animaux qui n'ont pas de conscience.
Voilà. Parlons d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui a annulé hier son déplacement à La Rochelle pour remonter de façon assez inattendue à Paris, d'aller au journal de 20h où elle est venue par surprise proposer l'organisation d'une primaire à gauche, que viennent participer à cette primaire tous les candidats qui veulent ensemble gouverner. Je ne sais pas si on avait le son d'Anne Hidalgo, je prends un petit peu le réalisateur au dépourvu. Écoutez ce qu'elle disait.
Aucun candidat de gauche, ni vous, ni un autre, n'est en mesure de se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous en avez tiré des conséquences ?
La conséquence que j'en tire, c'est qu'il faut organiser une primaire de cette gauche. Si nous ne faisons pas ce rassemblement, il n'y aura pas de possibilité pour cette gauche de continuer à exister dans notre pays.
Alors, c'est un JT qui a été totalement improvisé. Ses proches disent qu'ils n'étaient même pas au courant, qu'ils l'ont découvert. Vraiment, les très très proches disent qu'ils l'ont découvert hier soir aux 20h de TF1 sans prévenir ses équipes ni ses adversaires de gauche qui ont répondu par des tweets. Non. Jean-Luc, vous en pensez quoi, vous qui êtes un peu...
Je pense que c'est une des seules portes de sortie qu'elle propose. Mais on voit bien pourquoi elle le propose. Mais c'est une des seules portes de sortie. Pour la gauche ou les gauches ou les écolos, d'avoir un candidat potentiel au second tour de la présidentielle. Et cette idée-là n'est pas nouvelle dans le pays. Je vous en parlais régulièrement sur Sud Radio, sur ce qui s'appelle la primaire populaire. Alors, ce n'est pas non plus gigantesque, mais c'est plus de 200 000 personnes qui, depuis des semaines, demandent à ce qu'il y ait une primaire globale à gauche et dans l'écologie. Voilà. Alors, j'ai bien vu les réponses.
Ouais.
Mais les choses bougent. Et dans cette présidentielle, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut s'attendre à tout. Et donc, jour après jour, cette idée d'une primaire à gauche, même si elle est compliquée, hein, j'ai déjà participé à une primaire à gauche et elle ne s'est pas très très bien passée, ça s'est vu, merci. Mais clairement, je trouve que le fait qu'Anne Hidalgo dise ça, bon, Arnaud Montebourg le dit la même chose, va sans doute pousser Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon à réfléchir un peu plus sur la façon de faire pour qu'ils puissent ou l'un ou l'autre ou une autre personne être présente au second tour de la présidentielle.
Ah, vous trouvez que c'est une bonne idée, vous ?
Eh oui.
Ah oui, bah écoutez, on va voir ce que... Oui, Lucas, Jacubovic, vous êtes étonné. Parce que tous ont répondu non, très clairement, dont Yannick Jadot ce matin.
Déjà, il y a une sorte d'humiliation, je pense. C'est qu'en politique, quand on fait une proposition, une sorte de règle bienséance, c'est que les leaders du parti attendent les matinales du lendemain matin pour dire « c'est pas une bonne idée, je vais vous expliquer pourquoi ». Et là, en fait, tous les deuxièmes, troisièmes couteaux de tous les partis de gauche ont tweeté, mais vraiment dans l'heure, pour dire « mais c'est n'importe quoi ». Donc déjà, ça, c'est une forme d'humiliation. Et je pense que c'était très très bête pour Lopez d'aller à ce 20h parce qu'ils se sont montrés aux yeux de tous en situation de faiblesse, en disant on renonce à être le moteur de la gauche, on est prêt à se ranger potentiellement devant n'importe qui, y compris derrière Jean-Luc Mélenchon, et c'est un très mauvais signal envoyé aux électeurs de gauche qui croient encore dans le PS. Et à ça, il y a des soucis aussi de forme, c'est-à-dire que quand on est la candidate d'un grand parti et qu'on vient aux 20h, on négocie au moins 10 minutes d'antenne, si possible, en début de journal.
En ouverture.
Là, elle est passée après des reportages sur l'eau minérale meilleure que l'eau au robinet.
Sur l'enneigement, les
déneigeurs dans les Pyrénées.
Les huîtres, la vaccination des huîtres.
Et donc, du coup, elle avait strictement rien à gagner à prendre la parole et je ne comprends pas pourquoi elle l'a fait.
Et surtout, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi n'a-t-elle pas consulté en amont?
Peut-être qu'elle l'a fait, ça, on ne sait pas.
Oui, mais enfin, s'ils lui répondent non et qu'elle y va en disant on le fait quand même, c'est un peu étonnant.
Peut-être qu'il y a aussi une forme de cynisme. Elle va se dire, de toute façon, on va se cracher. Ouais. Et on va dire, vous voyez, on avait quand même proposé une alliance et puis elle a été refusée, donc nous, on reste droit dans nos bottes. Mais je pense, et il y a quelque chose sur laquelle la gauche se fourvoie, en disant, si on est unis, on peut être au deuxième tour, parce que oui, on fait 24% s'il y a un report parfait. Mais en réalité, même s'ils arrivent au second tour, ils n'ont même pas de report de voix.
Mais comment imaginer que des électeurs du PS vont aller voter pour Jean-Luc Mélenchon ?
Il y a
quand même des lignes assez difficiles, Mathéo.
Déjà, je trouve qu'Anne Hidalgo s'est réveillée et elle a compris peut-être que le monde n'est pas le Boboland du centre de Paris, et donc que les gens ont des idées aussi différentes des siennes et qui ne pensent pas seulement à avoir une petite fleur rose au fond d'un jardin public de Paris. Il y a d'autres problèmes, plus importants d'ailleurs que celles dont elle s'occupe pour la plupart du temps à Paris. Je pense aussi que l'idée d'une primaire, pourquoi pas ? je rejoins Benamias, mais le problème, c'est que je trouve que c'est un peu tard. Effectivement, il y a les électeurs, beaucoup d'électeurs de gauche qui sont qui le demandent depuis un moment. Mais je pense aussi qu'ils ils ont réalisé que leurs dirigeants ne sont pas n'ont pas une position confortable parce qu'ils craignent les résultats des urnes. Donc, ils ont peur d'être battus par l'un ou l'autre candidat. Il y a une forte guerre d'ego dans la gauche en ce moment et je ne vois pas du tout, effectivement, Mélenchon ou Jadot faire un pas en arrière. Déjà parce qu'ils l'ont déjà fait quand il y avait la précédente présidentielle. Et puis, parce que je pense aussi que si on regarde un petit peu les électeurs de la gauche, les partis qui ont plus de succès, entre guillemets, ce sont les partis qui font un discours radical, soit écologiste, soit...
Oui, son discours, on ne voit pas bien où il est. Elle dit,
et les autres, je pense qu'ils
ne
voteront pas les socialistes, mais ils voteront Macron.
Oui, Yves Damécourt.
D'abord, c'est de l'improvisation totale, mais bon, Anne Hidalgo nous a habitués à ça, puisque lorsqu'elle avait annoncé sa proposition de doubler le salaire des professeurs, elle l'avait aussi annoncé sans que son équipe soit au courant. Elle part d'un constat, c'est que aujourd'hui, compte tenu de l'éparpillement façon puzzle des forces de gauche, la chance d'être au second tour est quand même très minime. Ensuite, j'imagine qu'elle a observé ce qui s'était passé du côté des Républicains et le bond dans les sondages qu'a fait Valérie Pécresse et se dit, si je peux passer... D'ailleurs, c'était le cas aussi de Benoît Hamon, qui était passé de 6 à 16% après la primaire. Donc, elle se dit, s'il y a une primaire et que ça peut nous faire bondir, c'est une meilleure base de départ.
Il y a une primaire PS, hein.
Oui.
Il y a une primaire PS, mais pour rappel, alors ça c'est un chiffre très très rigolo, il y a eu la convention d'investiture du PS à Lille, moi je l'avais regardé en direct. Il y avait la convention officielle à Lille, moi j'avais regardé en direct sur YouTube, il y avait 600 personnes en temps réel, et il faut quand même reconnaître que Mélenchon, la semaine dernière, à son meeting, sur sa chaîne YouTube, il y avait 20 000 personnes en temps réel.
Ouais. Que ce soit une bonne idée, Jean-Luc Benamias, ce que vous dites sur dans l'absolu, mais encore une fois, cette question, comment des électeurs du PS vont voter pour Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même des lignes, Yannick Jadot, il y a quand même des lignes qui ne sont pas du tout les mêmes, et des points très forts de différenciation.
À une époque, pas si lointaine, mais quand même assez lointaine, les communistes qui détestaient les socialistes dans les années 70, et c'était vraiment de la détestation, c'est le moins qu'on puisse dire, ont voté pour François Mitterrand. Qu'on veut avoir une gauche française, est-ce qu'on veut avoir une gauche française écologisée fortement, pesant dans la vie du pays ou pas? Voilà. Si on n'a pas envie, on continue comme ça. Et on finit avec 3, 4, 5 candidats dont le meilleur fera 10 ou 11%. Voilà. C'est pas très utile. Et puis, faut toujours penser derrière qu'il y a quand même des législatives. Hein, et que les législatives ne seront pas les mêmes que les législatives de la dernière, des dernières législatives après le succès d'Emmanuel Macron. Enfin, c'est ce que j'en pense en tous les cas. Donc, globalement, se jouent les enjeux derrière tout ça, qui sont des enjeux de savoir est-ce que la gauche française et les écologistes de gauche continuent à exister et avoir une place dans le pays.
Voilà. Mais
c'est la proposition de Baron Noir, en fait, qu'elle nous fait. C'est la primaire qui finalement finit par voler la vedette à Jean-Luc Mélenchon en prenant, grâce à une primaire, le pouvoir sur son parti. Ouais.
Mais... On marque une pause et on revient et on continue à débattre. 0826-300-300 avec vous sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Quelques mots encore sur Anne Hidalgo peut-être et cet appel qui pour l'instant fait pchit. Il y a Arnaud Montebourg qui éventuellement serait d'accord entre qu'il est crédité de 1 ou 2%, elle de 3%. Ça va être compliqué de rassembler...
C'est compliqué de rassembler autour d'une personne parce qu'il n'y a aucun leader qui se dégage et qui peut imposer ses vues. Mitterrand pouvait rassembler et imposer ses vues parce qu'il avait du charisme. Après, il y a la question du programme. Les gauches actuelles sont d'accord sur rien. Certains sont pro-européens, d'autres veulent sortir des traités. Certains sont communautaristes woke, d'autres sont laïcs. Certains sont plutôt libérales sur le plan des mœurs. D'autres sont beaucoup plus conservateurs. Donc, ils sont d'accord sur rien. Et s'ils trouvent un accord, en fait, ça va être une sorte de gloubi-boulga qui risque de mécontenter tout le monde.
Ouais, absolument. Mais là, en tout cas, elle a eu vraiment une fin de non-recevoir de la part de tous les candidats. Vous pensez que ça peut évoluer, Jean-Luc Benamias ?
J'en suis même persuadé.
Ah bon ? Mais quel est l'intérêt de Mélenchon ou d'Yannick Jadot qui eux-mêmes ont un petit peu...
D'essayer de faire autre chose que d'être présent au premier tour sans être présent au second tour.
Ouais.
Non, mais ça, c'est sûr. C'est sûr, ouais, que la seule chance qu'ils ont d'être présents au second tour, c'est de s'entendre pour qu'il y ait moins de candidats. C'était d'ailleurs ce qu'avait plaidé Laurent Ruquier sur son plateau quand il avait reçu Jean-Luc,
ouais,
Mélenchon.
Ouais, enfin bon.
Il s'était transformé, ouais, en coach de la gauche.
Vous, ouais, vous imaginez une seule seconde Jean-Luc Mélenchon, qui est le plus gros égo de la scène politique française, renoncer à sa candidature? Vous imaginez une seconde Yannick Jadot qui, ouais, s'est rangé derrière Hamon pour faire 6%, renoncer une deuxième fois? C'est impensable.
Ouais, c'est ce
je leur conseille
dit.
De faire un sondage qualitatif,
ouais,
et puis ensuite, donc pour entraîner tout le monde et soigner les égos, leur montrer à chacun qu'ils ont la chance d'être choisis, et ensuite de faire une primaire.
C'est ça. Ils en font déjà des sondages qualitatifs, et d'ailleurs c'est pour ça que le PS et les Verts ont un peu évolué sur les questions de laïcité et se montrent un peu moins communautaristes. Parce qu'ils savent que c'est un des seuls moyens de regonfler un peu leur électorat.
Ouais.
Ça me rappelle un petit peu un personnage du Petit Prince d'un temps de Saint-Exupéry, le roi qui était le roi d'un planète minuscule, qui était le seul habitant de cette planète, qui faisait des édits, mais voilà, qui n'avait aucun effet. Non. Et c'est un peu ce qui se passe avec les leaders de différents partis de gauche.
Ouais. C'est le roi et la rose, en fait. C'est les deux planètes et les deux...
Ah. Allez, on va changer de sujet. Une enquête IFOP réalisée pour la LICRA, c'est basé sur un échantillon de 1000 lycéens. Donc c'est un sondage qui a été fait dans les règles de l'art pour évaluer la place de la religion dans les établissements scolaires. Et c'est assez étonnant, peut-être diront certains. 40% des lycéens estiment que les règles de leur religion sont plus importantes que les lois de la République. 28% des lycéens ont déjà constaté des absences de jeunes filles au cours de natation au nom de convictions religieuses. 47% ont été confrontés à des demandes de repas conformes à des pratiques confessionnelles. Et puis 33% pardon, des lycéens sondés ont déjà assisté à des contestations d'enseignement moral et civique, en particulier dans les cours d'éducation sexuelle.
Bah, c'est ce sondage est très intéressant, mais il ne parle pas clairement de quelle religion s'oppose aux règles du...
C'est les jeunes musulmans.
Voilà.
Mais oui.
Voilà. Donc, je n'ai rien à ajouter, dans le sens que moi, je ne veux pas stigmatiser qui que ce soit, mais ces problèmes-là ne viennent pas des étudiants et étudiantes d'autres religions, parce que la laïcité est quelque chose de très... qui se passe très bien chez d'autres confessions religieuses, même dans des écoles... confessionnel. Parce que si on est sous contrat, on doit respecter tout un tas de règles, alors que là on trouve des étudiants dans les écoles publiques qui s'opposent carrément au fonctionnement de l'école publique. Voilà.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Mathéo, de dire que c'est juste de la faute de l'islam, des musulmans, etc. Aujourd'hui, et il y a beaucoup d'autres études qui le montrent, c'est que les jeunes sont dans une sorte de civilisation, c'est ce qu'on appelle une civilisation du cocon, hein. C'est un livre qui a été écrit là-dessus, où en fait... ils ont hyper peur de froisser des gens qui pensent pas comme eux, ou de commettre des maladresses, d'être accusés de racisme. Et donc, du coup, c'est peut-être ça aussi qui les pousse à être très, très tolérants avec les religions. Et je pense que plus que...
Mais qui parle des religions dans les écoles publiques actuellement ?
Non, mais peut-être qu'il va y avoir, je sais pas, imaginons dans une classe, un musulman qui va dire « ma religion pense plus que tout », mais il va y en avoir trois autres qui disent « moi, j'ai aucune religion, mais je conçois tout à fait qui considère sa religion comme plus importante que tout ».
Je veux pas polémiser, mais ce que je trouve, c'est que dans certaines écoles publiques, on se fait des problèmes pour préparer aussi le sapin de Noël, parce que c'est le sapin de Noël. Si on l'appelait l'arbre des l'hiver, ça passerait, selon eux, pas froisser.
Certes, mais quels sont les élèves qui poussent à retirer le sapin Noël? Je suis pas persuadé que ce soit des élèves musulmans, même quand on regarde dans la tranche d'âge un tout petit peu au-dessus. Par exemple, à Sciences Po Grenoble, les étudiants qui font des chasses aux sorcières, qui défendent les religieux les plus intégristes, je suis désolé, quand on regarde leur liste, c'est des Français blancs qui viennent de province, etc.
Oui, mais donc,
ils
sont de gauche.
De gauche, sûrement. Mais c'est faux de dire c'est les musulmans qui contestent, qui sont les seuls à contester les règles de laïcité.
Il y a un article sur un site, le Café Pédagogique, qui conteste cette enquête en disant que les questions sont biaisées, fallacieuses, que ça ne reflète pas la réalité. Donc c'est toujours la question des sondages, Yves Damecco.
Oui, c'est la question des sondages. C'est un deuxième sondage. Il y en a un qui a été fait au mois de mars l'année dernière.
Ouais.
Toutes les thématiques abordées ont un rapport avec le Coran, quand même.
Ouais.
Après ça, dans les réponses, je pense que vous avez raison, il y a certainement des enfants qui ne sont pas de religion musulmane qui ont adopté les mêmes réponses que les enfants de religion musulmane. Je pense que tout ça, c'est un problème d'éducation, parce qu'en fait, si on regarde la fête de Noël, la naissance du Christ, elle est dans le Coran. Marie est dans le Coran. Jésus-Christ est dans le Coran. Et donc, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un enseignement des religions qui soit fait dans les écoles. Je pense que c'est important. D'abord, c'est important pour la France, parce que la loi de 1905, elle remet les compteurs à zéro en 1905, mais elle reconnaît les racines chrétiennes de la France, puisque le patrimoine religieux français appartient à l'État ou aux collectivités locales. On en a parlé tout à l'heure à propos de Notre-Dame. Donc en fait, il y a beaucoup de méconnaissances dans tout ça, et il y a un besoin d'éducation énorme. Et donc, il faut reprendre le travail à la base et travailler sur l'éducation et sur l'enseignement du fait religieux.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, la société et l'extérieur n'est pas plus fort que l'enseignement ? C'est-à-dire que apprend à l'extérieur, le poids de la famille, de la tradition, est plus fort aujourd'hui que ce qu'on peut vous enseigner à l'école. La preuve, la contestation de certains cours, de certains faits historiques, de certains... Alors Jean-Luc, peut-être Benyamias, on ne vous a pas entendu.
Aujourd'hui, c'est les 115 ans de la loi 1905.
Oui, c'est le
journée qu'il faut revenir régulièrement comment la loi 1905 a été élaborée, à partir de quelle discussion à l'Assemblée nationale, je sais qu'avec des hommes, c'était ainsi à l'époque, comment elle a été élaborée, comment un compromis a été élaboré, et pourtant, les tensions étaient déjà à l'époque extrêmement gigantesques. Donc il faut rappeler à l'école, dès le plus jeune âge, enfin dès la primaire, ce qu'est la loi de 1905, ce qu'est la liberté, ce qu'est la laïcité. Et quand on aura fait ça, on verra après si les choses n'évoluent pas. Mais pour l'instant, effectivement, ce sondage, bon, évidemment, les questions dans un sondage peuvent être parfois biaisées, mais il est significatif d'un certain nombre de phénomènes réellement existants, on le sait, par rapport à la nourriture, par rapport au sport, par rapport à, aux hommes et aux femmes. Bon, voilà. Mais sérieusement, refaisons de la pédagogie par rapport à la loi de 1905, de la citoyenneté, c'est l'essentiel pour moi.
Oui.
Après, ça ne réglera pas tout, mais au moins ça permettra de revenir sur des faits historiques réellement établis et réellement travaillés.
Oui,
ce qui était aussi stupéfiant dans ce sondage, c'était, alors, en fait, j'ai l'impression que les plus jeunes veulent, entre guillemets, s'inventer une identité. Donc beaucoup vont surjouer une identité religieuse, mais il y en a aussi de plus en plus qui vont pas avoir une identité religieuse, mais qui vont se définir comme non-binaire, gender fluid, etc. Ce qu'il n'y avait pas du tout chez les plus jeunes. Et alors moi, dans l'étude, il y a aussi un chiffre qui m'a frappé, parce que je crois qu'il compare en fait le mode de pensée des lycéens avec les plus âgés.
Ouais.
Et en fait, c'est chez les lycéens que, je crois, il y a 46% des lycéens qui disent que le rôle d'une femme, c'est avant tout de rester à la maison et faire des enfants, alors que chez les plus de 65 ans, je crois, c'était 17%. Donc, effectivement, il y a un retour à des pseudo-vertus morales, et qui rejoignent d'ailleurs ce que j'ai dit en début d'émission. Quand on voit aujourd'hui, la gauche, c'est devenu la gardienne des valeurs morales, et son cœur d'électeur, c'est justement des gens qui disent au fond d'eux la femme doit rester à la maison, mais en même temps, on peut être gender fluid, mais ça marche pas.
Alors, il faudrait poser la question à Frédéric Dabi sur le sondage, mais c'est vrai que donc, le Café Pédagogique qui conteste ce sondage dit un échantillon de 1000 élèves, dont 11% de musulmans, c'est-à-dire 111 élèves musulmans, donc qui défendraient l'opinion de 111 personne a une valeur représentative pour 1 million de jeunes. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment 40%, ils ne sont pas majoritaires les musulmans, donc comment est-ce que 40% des jeunes peuvent estimer que la femme doit rester à la maison ou que la religion est plus importante
au conformisme. À la loi du plus fort qui souvent règne dans certaines écoles publiques.
Mais je nie pas le sondage, mais c'est vrai que ça pose une question.
Il y a plein de chiffres comme ça qui montrent en fait une moralisation des plus jeunes. Par exemple, il y avait une étude sur le nombre de partenaires sexuels à 25 ans. Et en fait, les jeunes des années 90 en avaient trois fois plus que maintenant. Maintenant, les plus jeunes rêvent plus d'une relation, on va dire, longue durée, du grand amour. Enfin, ils sont beaucoup plus prudes que nos générations. Mais c'est normal parce que on s'oppose toujours aux aînés. Et nos aînés, c'était les boomers, c'était les 68ards, c'était le jouissons sans entrave. Et donc aujourd'hui, pour s'opposer à nos aînés, effectivement, on va peut-être surjouer un peu.
Oui,
la...
mais là on met la religion en avant, enfin très clairement dans ce sondage.
Mais oui, voilà. Parce que les plus anciens étaient des casseurs de curés.
Oui.
Et donc du coup,
mais justement, parce que moi je trouve que c'est très bien ce qu'il dit Jean-Luc Benhamias à propos du rappel de la loi du 1905. Mais il faut aussi rappeler que, par exemple, en 1903, il y avait eu la deuxième grande expulsion des congrégations en France. Donc, la loi 1905 est née sur quelque chose de très conflictuel au niveau de la société française de l'époque. Justement, c'est aussi pour respecter tout le discours qui a été fait à l'époque qu'il faudrait éviter d'arriver à des minorités qui souhaitent imposer quelque chose de différent, qui méconnaissent complètement la loi 1905 et qui posent effectivement, c'est les seuls qui posent des problèmes, dans le sens que, voilà, 115 ans après, ce n'est pas ni des catholiques ni des juifs qui posent des problèmes. Parce qu'ils n'acceptent pas l'éducation civique, le sport avec des classes mixtes, etc. Mais c'est beaucoup d'élèves musulmans ou d'autres qui se conforment à eux.
Pour les gens qui sont intéressés, Lucas. D'ailleurs, je conseille le livre de Jean-Pierre Aubin, qui est un ancien inspecteur de l'éducation nationale, qui avait fait tout un rapport là-dessus. C'était au début des années 2000. Le rapport avait été enterré. Et pas par les vilains islamo-gauchistes, comme disent quelqu'un, par François Fillon, qui était ministre de l'Éducation. Et après, il a été ressorti de la naphtaline après l'assassinat de Samuel Paty. Le livre est ressorti, et là, on a vraiment vu qu'effectivement, dans l'éducation nationale, dans les collèges, dans les lycées, il y avait énormément de renoncements à tout ce qui était vivre ensemble, laïcité, liberté de penser, et souvent avec l'aval des profs, hein, par peur ou par complicité.
Enfin, juste, je voudrais réagir à ça en disant que François Fillon n'avait pas enterré ce rapport et qu'il a eu des conséquences très concrètes dans la loi. Voilà. On peut faire un débat sur ce sujet-là.
Je serais curieux de savoir lesquels.
Et d'ailleurs, François Fillon a réagi la dernière fois qu'on a évoqué ce sujet-là. Il ne sort pas souvent de son silence, mais là, il était sorti de son silence.
Je vois Jean-Luc Mélenchon donc, qui, dans une interview à l'Express, déclare « Faisons la part des choses, on n'accuse pas les catholiques qui exigent aujourd'hui une mantille sur la tête des femmes pour rencontrer le pape, de manier un symbole sexiste. Je ne suis pas
déjà, pour le pape habite au Vatican, pas en France.
Je ne suis pas pour la police du vêtement, il faut y aller mollo. Je ne l'ai été que dans un cas, celui de la burqa, je ne changerai pas d'avis. »
Déjà, le pape reçoit ses invités au Vatican, et déjà, ce n'est pas une règle stricte, parce que je me rappelle même Raïssa Gorbatchova, par exemple, qui s'est présenté habillé en rouge sans voile, et plein d'autres femmes arrivent sans être voilées.
Pour montrer la pensée.
C'est pas une défense d'office du pape, mais voilà.
Non, mais ça n'a rien à voir, évidemment, que la mantille n'a strictement rien à voir.
On s'adapte au lieu. Quand une journaliste va en Iran, elle met un voile quand elle fait ses reportages dans la rue.
Ouais.
Et c'est pas pour ça qu'elle le met quand elle est en France. Enfin, ça n'a pas de sens.
Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant, parler de notre démocratie, entre autres.
Sud Radio 10h midi, débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio. Autre sondage, mais intéressant, celui qui paraît dans Challenge cette semaine. Il faut sauver la démocratie. 61% des Français l'estiment en danger. Dans ce sondage, les Français estiment en grande majorité que la démocratie à laquelle ils sont attachés ne fonctionne pas très très bien. Ils estiment à 74% qu'il y a urgence à la défendre. Ils estiment que la démocratie ne fonctionne pas très très bien. Ce sont les zones rurales qui sont les plus inquiète. 46% des Français dans les zones rurales pensent que la démocratie fonctionne bien, 60% à Paris. Donc il y a un sentiment d'abandon peut-être dans les zones rurales, avant de commenter un autre chiffre important qui est que 30% pratiquement des Français estiment qu'il est normal de recourir à la violence quand on n'est pas entendu.
Il y a un vrai problème dans les zones rurales où les habitants des zones rurales étaient très attachés à leur maire. Aujourd'hui, quand ils vont voir leur maire parce qu'il y a un problème spécifique dans leur voisinage, le maire leur dit « Ah oui, mais moi là-dessus, c'est pas moi qui ai le pouvoir, c'est la communauté de communes ». La communauté de communes, elle n'est pas élue au scrutin direct, donc c'est des représentants de représentants. On ne sait pas vraiment qui est le président de la communauté de communes. On commençait à le savoir il y a 15 ans, mais elles ont grandi une fois, puis deux fois avec la loi NOTRe. Donc aujourd'hui, c'est des communautés de communes qui sont énormes. Les gens se reconnaissaient dans leur conseiller général. Les cantons ont été fusionnés, notamment dans les zones rurales. Moi, j'étais conseiller général d'un canton de 6 000 habitants qui a été fusionné avec 5 autres cantons dans un canton de 45 000 habitants qui faisait 90 km d'un bout à l'autre du canton. Donc, en fait, les gens pouvaient rencontrer leur maire, rencontrer leur conseiller général, en parler, etc. Enfin, la démocratie, elle s'organisait parce que les gens se connaissaient, se croisaient, on se voyait sur le marché.
C'est beaucoup trop,
Et tout ça a été complètement fondu. Les grandes régions, mais c'est hallucinant. Ouais. Aujourd'hui, aux dernières élections régionales en Nouvelle-Aquitaine, il y avait un bulletin de vote avec 183 noms sur 12 départements. Écrit tout petit, on n'avait même pas la place de mettre la commune de résidence ou le métier des gens qui se présentaient. Donc vous avez une espèce de feuille, vous ne connaissez personne, il faut une loupe pour voir le nom. Ce n'est pas de la démocratie, c'est autre chose.
Oui, mais il y a ce ressenti en tout cas très fort en région. Mathéo, vous voulez réagir ?
Là, je réagis un petit peu en tant qu'étranger, dans le sens que je pense qu'il y a un problème à l'éducation, à la démocratie, dans le sens que, sans vouloir être trop critique, mais plus de 50 ans de 5e République où tout est concentré dans les mains de très peu de personnes, on fait que les Français ont perdu un peu l'habitude à se renseigner, à participer à la chose commune, et la preuve vient des forts taux d'abstention aux récentes élections. Mais et aussi, je pense que c'est dû au fait que qui gouverne n'est pas du tout disposé en France à se remettre en question, à rendre des comptes. Et rendre des comptes, ça veut dire par exemple parfois aussi faire des référendums de façon régulière et très encadrée. Je dis souvent, un peu en rigolant, même dans un pays pas toujours organisé comme celui où je suis né, donc l'Italie, on célèbre souvent des référendums sur des questions importantes, par exemple on l'a fait sur le nucléaire. Et donc, je pense qu'en France, on pourrait tout à fait réussir à interroger les citoyens sur certaines thématiques importantes régulièrement, et quitte à avoir après une alternance aussi dans les forces politiques, dans le sens que moi, je vois rien de mal, par exemple, au Parlement il y a une majorité qui est différente de celle qui gouverne. C'est plus difficile. C'est difficile, mais c'est une façon de...
Sur le référendum, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a un hic. Ouais. Il faut que le résultat du référendum soit respecté. Le dernier référendum qu'on a eu sur l'appartenance, sur le traité de Lisbonne, la France a dit non, et finalement, le traité est revenu par la fenêtre. Alors, c'est aussi une des raisons qui explique pourquoi les Français doutent dans la démocratie et peuvent devenir violents, parce qu'ils se disent, mais on a le droit de vote, on vote, mais en fait, on ne tient pas compte de ce qu'on dit.
Ouais, c'est ce que dit notre auditeur Olivier. Il dit, cela dit, la démocratie dans un pays qui réduit la liberté d'expression à la loi Guesso et fait passer en force le traité de Lisbonne, il est vrai que c'est discutable, et les réseaux sociaux appuient sur ce sentiment de défaillance démocratique. On parle aussi de référendum. Certains disent qu'il faudrait plus de référendums, mais vous nous disiez pendant la pub qu'en fait, les gens ne viennent pas voter quand il y a des référendums.
Quand localement, on interroge les gens sur un certain nombre de choses, les gens ne participent pas. On l'a fait quand j'étais maire sur le plan local d'urbanisme, sur un certain nombre d'équipements. Les gens ne le font pas. Mais ils sont contents de voir qu'on les consulte, mais ils ne répondent pas.
Ouais. Il y a un système tout à fait intéressant par rapport au système référendaire, qui est, je vais vous le dire, ça va vous surprendre, le système américain. En même temps qu'on vote aux États-Unis pour la présidentielle, c'est compliqué, chacun le sait, la présidentielle, dans les différents États américains, il y a une liste de questions posées référendaire, ça peut être parfois sur 50 questions, 60 questions, et les Américains votent. Et par rapport à cela, c'est sur un certain nombre de faits de société. Pour le reste, le fait que notre pays, la 5e République, qui, de mon point de vue, est en fin de vie, alors ça peut durer longtemps une fin de vie, et tant mieux pour ceux qui durent longtemps, mais clairement, la présidentialisation, j'ai toujours du mal à le dire, générale de notre société, fait que tout est totalement centralisé. Tu l'as dit, clairement, quand on voit des grandes régions comme les régions comme la Nouvelle-Aquitaine, qui peut comprendre exactement le système au niveau du vote, mais aussi au niveau de la gestion. Comment on peut repérer tout cela? Et après, il y a le millefeuille institutionnel français qui est devenu totalement incompréhensible. C'est-à-dire que les niveaux d'élection sont tous différents. La façon de voter, c'est toujours différent pour savoir si on est maintenu au second tour, pas maintenu au second tour, si on peut continuer à se présenter. Et tout ça est devenu incompréhensible. Il y a besoin de simplification, et je suis d'accord, on doit pouvoir mettre le système référendaire en France. globalement, les Suisses y arrivent très bien, les Italiens y arrivent très bien, oui. Et tout ça est contrôlé par rapport aux droits humains et par rapport à la, comment dire, au fait qu'il n'y ait pas de référendum sur des choses qui seraient contraires aux droits humains.
Oui. Je vous donne un exemple très concret. En Italie, pour faire un référendum, il faut remplir tout un tas de critères. Par exemple, déjà, il faut avoir 500 000 signatures, il faut une validation de la Cour constitutionnelle, il faut que le référendum ne soit pas, comment dire, dépassé par une décision du Parlement entre-temps. Et par exemple, on peut voter seulement sur des référendums abrogatifs et pas propositifs en Italie, et pas aussi sur des lois financières, parce que naturellement, on pourrait avoir envie d'abroger un impôt avec un référendum. Mais je veux dire, on peut mettre tout un tas de règles pour être sûr que on fait pas un référendum sur la couleur des pailles dans les verres de café. Je veux dire,
en Suisse, c'est un peu le cas. Hein.
C'est notre culture.
Mais ce qui est intéressant, et le chiffre, on n'aura pas beaucoup le temps de le commenter, 31% des Français déclarent qu'il est compréhensible que certains aient recours à des actes violents pour manifester leur opposition. C'est un chiffre...
Hier, il y avait un débat à l'Assemblée nationale sur une proposition du Sénat qui était de donner aux maires un droit de veto sur l'implantation des éoliennes.
Ouais.
Aujourd'hui, on sait tous les problèmes que pose la prolifération des éoliennes. Madame Gouraud a expliqué que si on donnait un droit de veto aux maires, ils allaient se retrouver confrontés au mécontentement de leurs habitants. Enfin, c'est le métier des maires.
Ils sont là pour ça.
Et c'est ce qu'ils demandent. Imaginez ces gens qui voient un champ d'éoliennes implanté sur leur commune.
Ils se retournent vers le maire.
Le maire n'est pas au courant. Le président de la communauté de communes n'est pas au courant. Le président de la région leur dit moi, je ne suis pas au courant. C'est l'État qui décide. Si derrière, ils ont des réactions violentes en disant on n'en veut pas, moi, je comprends. Voilà.
Lucas Jakubowicz, c'est chez les 18-24 ans que c'est le plus fort. Hein, 47% qui justifient cette violence, les actes violents pour se faire entendre.
C'est possible. J'ai l'impression qu'on est dans une société, surtout chez les plus jeunes, du réseau social où on est dans le clash.
On parle de violence physique.
Mais justement, on est dans le clash, on est dans les punchlines, on n'est plus dans la négociation. Ce qui était plus l'apanage des plus âgés. Donc finalement, effectivement, quand on n'a plus les mots, les moyens, l'envie de négocier, ne reste que la violence. Donc ça ne me surprend pas du tout. Comme quoi, à 33 ans, je deviens déjà un vieux, de voir les plus jeunes... voir les plus jeunes,
rien
plus violents que les plus
violents.
Il y a ceux qui pensaient que la femme doit rester à la maison d'un autre sondage.
Il y a quand même 73% des gens dans ce sondage qui disent qu'il y aurait moins de problèmes si on confiait plus de responsabilités aux élus locaux. Et donc voilà, c'est la décentralisation.
C'est ce qui ressort, le premier chiffre sur lequel on réagit, c'est-à-dire la province qui se sent, la ruralité qui se sent abandonnée, effectivement. C'est à découvrir dans Challenge, 10 000 personnes interrogées et 61% estiment que la démocratie aujourd'hui est en danger. Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous.